France Inter, le 18-20.
Le chiffre le plus souvent cité, c'est un couple sur six. Un couple sur six est infertile. Les causes, elles sont d'ailleurs statistiquement très partagées entre l'homme et la femme. Un couple sur six, quand même, c'est beaucoup. C'est pour ça que tous les ans, l'INSERM fait le point sur les recherches, les avancées, les causes. Il y a, par exemple, aujourd'hui, des sujets qui ne sont plus tabous, enfin. C'est le cas de l'endométriose, par exemple, qui est aussi un facteur d'infertilité. Parfois aussi, et c'est l'époque qui parle, l'âge moyen du premier enfant est bien plus tardif, donc parfois plus difficile. L'environnement joue-t-il un rôle important? Sommes-nous capables de le mesurer réellement? La discussion sur la loi bioéthique n'en finit pas d'être reculée, mais le sujet de la congélation des ovocytes, il est de plus en plus d'actualité pour mettre toutes les chances de son côté. Bref, les causes, les explications, les traitements, les diagnostics aujourd'hui sont meilleurs, mais les solutions ne sont pas les mêmes, pas pour tous en tout cas, et pas pour toutes, et c'est tout l'objet de notre discussion ce soir. Soyez les bienvenus.
Fabienne Synthès. Le téléphone sonne.
Laetitia, c'est vous qui commencez. Bonsoir Laetitia, soyez la bienvenue.
Bonsoir.
Allez-y Laetitia, bonsoir.
Eh bien, moi je vous téléphonais parce que quand j'ai entendu le thème de l'émission, ça m'a particulièrement interpellée. Parce qu'à l'âge de 38 ans, avec mon ami, on s'est dit, bon, ce serait peut-être bien de se lancer, de faire un bébé. Et puis, j'ai vu ma gynécologue qui m'a dit, là, il faut arrêter d'y penser, il faut le faire. Et donc, je suis sortie du premier rendez-vous là, un peu fou, un peu estomaquée. Et puis, au bout de 6 mois, ça n'avait toujours pas eu lieu, on s'y est mis sérieusement pourtant. Et du coup, j'y suis retournée, elle m'a prescrit un tas d'examens. Et un petit peu, le parcours a commencé pour le protocole de fécondation in vitro. Enfin, tout d'abord, ils m'ont décelé que j'avais plus assez d'ovocytes. Ils m'ont dit, chaque femme est différente, on a un stock d'ovocytes différent et le vôtre est bientôt vide. Donc, ce stock qui nous permet de se dire qu'à 38 ans, on se sent pas vieille. Et pourtant, le corps, il a parlé. Et du coup, on a commencé la première FIV à l'automne dernier, qui n'a pas marché. On en a fait une deuxième qui n'a pas fonctionné. Et puis là, on croise les doigts pour la troisième qui arrive au mois de juin. Et en fait, ce que j'avais envie de dire aux auditeurs, aux auditrices surtout, c'est que ce désir d'enfant, s'il est là, je pense qu'il faut, s'il est là, on se dit, ah oui, un jour, on aimerait avoir un enfant, mais on sait pas quand. Il faut quand même s'assurer qu'on peut encore en avoir, même les années passant. Et ça paraît un peu naïf, parce qu'évidemment, on en parle, l'horloge biologique, etc. Mais
C'est un peu la question que j'allais vous poser, Laetitia. Excusez-moi, moi, je suis un peu étonnée que, de votre étonnement, en fait, quand à 38 ans, on vous dit « il est tard ». Est-ce que vous ignoriez complètement, ou est-ce qu'on se dit dans ces cas-là « oui, enfin, c'est ce que je lis, c'est ce que je vois, mais pour moi, ça va marcher, en fait ».
Ben, un petit peu ça, c'est vrai que c'est de la naïveté, c'est vraiment ça. Mais d'un autre côté, on a plein de stars du cinéma qui ont des enfants à 42 ans.
Les magazines féminins nous tuent.
C'est vrai que c'était très naïf de ma part. Ouais. Je reconnais bien, bien volontiers ça. Après, c'était que l'envie, j'avais pas de, mon ami et moi, on s'est rencontrés tard. On 35 ans, on s'est dit, au bout de 2-3 ans, allez, on se lance. Et c'est vrai que maintenant je vois bien que c'est un parcours du combattant qui nous attend et c'est pas dit qu'on en sort victorieux. Après, on croise les doigts, mais en tout cas de s'en inquiéter avant, c'est une bonne donc c'est bien cette émission pour pouvoir en parler.
Et on en parlera et on croise les doigts pour vous, Laetitia, évidemment. Et puis surtout, on veut surtout pas que vous quittiez le téléphone sonne en étant culpabilisée, parce qu'il y en a plein des femmes comme vous. Bonsoir Charlotte Sonigo.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse à l'INSERM, vous êtes médecin de la reproduction, et bonsoir Daniel Véman, vous êtes chercheur à l'INSERM. Vous aussi, on est cerné au sein de l'Institut Cochin, spécialiste aussi évidemment de ces questions, et Véronique Julia est là avec nous, spécialiste santé à France Inter. Charlotte Sonigo, je veux surtout pas culpabiliser Laetitia, parce qu'encore une fois, il y en a beaucoup des femmes comme elle qui se décident. Et puis c'est l'époque aussi qui dit qu'on donne plus à notre carrière d'abord, qui dit que on vit très différemment aujourd'hui et qu'on se réveille peut-être un peu plus tard lorsqu'on est une femme aujourd'hui. Mais c'est vrai aussi que on est toutes finalement très naïves face à ces questions-là. En fait, on se dit que c'est pour les autres au fond, non, que nous ça marchera.
Oui, mais effectivement, c'est un message très important à faire passer. Aujourd'hui, on n'a pas de marqueur de fertilité hormis l'âge, et on sait que l'âge est le principal facteur de fertilité et que la fertilité diminue drastiquement avec l'âge, même à partir de 36 ans. Et même après 40 ans, les chances de grossesse spontanée sont très très faibles. Donc effectivement, c'est un message très important à faire passer et à savoir pour la population générale et pour tout le monde que, bah, comme vous l'avez dit, que quand on a un désir de grossesse, il ne faut pas attendre trop longtemps avant d'essayer de le mettre en route, effectivement.
Et en même temps, vous envoyez plein de Laetitia, je suppose.
Ah oui, c'est vraiment aujourd'hui la majorité de la population. Et on explique aux patientes, effectivement, en les déculpabilisant, mais en expliquant que malheureusement, même certaines techniques de fécondation in vitro ne marchent pas extrêmement bien avec l'âge, notamment après 40 ans. Et donc, pour le coup, on explique bien tout ça aux patientes. Et c'est vraiment une grande, grande majorité de notre population aujourd'hui, malheureusement.
Daniel Véman, juste pour aller dans le même sens, on a cette question de François Montauban qui nous demande au fond s'il est plus facile aujourd'hui d'avoir un enfant à 40 ans que ça l'était il y a encore une dizaine d'années. J'ai l'impression que la réponse est non, en fait. On fait beaucoup de progrès, certes, mais à un moment, là, on bloque.
Oui, il y a des limites biologiques. On a un stock d'ovocytes à la naissance. Ce stock va maturer une fois par mois à partir de la puberté. Et donc, il y a une limite à ça. Après, il y a quand même une variabilité génétique dans cette réserve ovocytaire. Mmh. Et il y a certaines femmes, il y a des familles comme ça, où ben, de façon naturelle et courante, on a des enfants à 42, 43 ans. Sur plusieurs générations, ça arrive. Mais c'est vrai que c'est
rare. Et c'est des exemples comme ça qui font que Laetitia pense que c'est possible pour elle à 38 ans facilement, en fait.
Voilà. Et réciproquement, on a ce qu'on appelle la ménopause prématurée, ou qu'on appelait comme ça, qui est donc l'insuffisance ovarienne prématurée, où une femme sur 1000 n'a plus d'ovocytes après 30 ans, une femme et ça peut être très tôt, une femme sur 100 après 40 ans n'en a quasiment plus. Donc voilà.
Véronique. Oui, faut peut-être. Je crois que les patientes ne connaissent pas la courbe. Elles n'ont pas vu. On leur a pas dessiné la courbe qui, à l'âge de 35 ans.
Non, parce que c'est la première chose que Véronique m'a dessinée en venant dans le bureau du téléphone sonne cet après-midi.
Mais parce qu'un jour, quelqu'un, un médecin, l'a dessinée devant moi, cette courbe. Et c'est vrai que tout le monde croit que bon, ça décline progressivement. Mais en fait, la chute, elle est brutale. À 36 ans, ça dégringole. Et on a des chiffres un peu pour quantifier cette perte de fertilité.
On n'en a pas réellement. On a des chiffres de pourcentage de chances de grossesse en fonction de l'âge.
C'était le sens de la question. Je pense que ça veut dire quoi concrètement, disons-le concrètement, à partir de 36 ans, les chances de tomber enceinte tombent à combien?
Alors, c'est un peu compliqué de donner des chiffres comme ça. On sait que, grosso modo, entre 25 et 30 ans, les chances par cycle sont environ 25% de chances par cycle d'avoir un enfant. Enfin, d'avoir une grossesse. À partir de 36 ans, les chances sont largement diminuées et on peut dire qu'à partir de 40 ans, il y a moins de 5% de chances par cycle d'avoir une grossesse. Et ça, c'est lié non seulement à la diminution de la quantité des ovules, mais aussi à une altération de la qualité de ces ovules-là. Et donc, une femme de 41 ans qui a un stock évalué par une échographie, par exemple, ou une prise de sang qui paraît normale, a quand même moins de chances de grossesse qu'une femme de 30 ans qui a un stock qui paraît diminué. Parce que la qualité de ses ovules à 41 ans est moins bonne que la qualité des ovules à 30 ans. Donc il y a vraiment une association des deux.
Alors il y a des hôpitaux, je pense à l'hôpital de Créteil, qui propose en fait un rendez-vous où vous pouvez calculer votre fertilité. Enfin,
on vous voit faire comme ça avec la tête. Attention, c'est genre très statistique.
En tout cas, on peut vous dire à 30 ans l'état de votre stock. Finalement,
voilà, on peut dire l'état
alors
du
c'est
stock.
Pas remboursé par la sécurité sociale. Est-ce que ce serait pas un truc à encourager parce que finalement, ça peut être pas mal à 30 ans quand on veut faire carrière.
Est-ce que ça veut dire qu'on est capable de dire à une femme attention, dépêchez-vous parce que vos taux sont en train de tomber de manière assez drastique ou alors vous avez le temps devant vous. On peut dire ça à une femme ou pas?
C'est le but de cette consultation.
On a moyen de dire ça?
C'est un peu compliqué quand même de dire ça parce que même si le taux est bas à 30 ans, donc par exemple il y a une hormone qui s'appelle l'hormone antimullérienne qu'on dose. Notamment pour avoir un reflet du stock, ce n'est qu'un reflet du stock. Et c'est pas parce qu'on a une hormone antimullérienne qui est basse que la fertilité est altérée. Et ça, il y a vraiment de plus en plus d'études qui le montrent, où c'est tout à fait possible, quand on est jeune, d'avoir une hormone antimullérienne basse et d'avoir une grossesse spontanée très facilement. Il y a une très jolie étude qui est sortie récemment, qui a montré que, quel que soit le taux d'AMH, les chances de grossesse dépendent beaucoup plus de l'âge que du stock.
Mais la réserve en ovocytes, on peut la calculer. On la connaît quand même. À 30 ans,
on peut
vous dire, vous en avez beaucoup, vous avez le temps, ou vous en avez peu, dépêchez-vous. C'est un peu
beaucoup,
ça.
Beaucoup d'ailleurs. Est-ce qu'on peut dire ce que ça veut dire beaucoup, Daniel?
Si c'est beaucoup qui sont pas de très bonne qualité, on va avoir le même problème. Et juste, je voulais revenir sur un chiffre que Charlotte a dit, que personne n'a relevé. Elle a dit à 30 ans, il y a 25% des cycles qui donnent une grossesse. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'espèce humaine,
c'est pas beaucoup.
C'est catastrophique. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, les gamètes, que ce soit les spermatozoïdes ou les ovocytes, sont extrêmement peu performants. Quand on compare avec des espèces domestiques comme les ruminants ou comme les souris, on a quasiment 100% de réussite ou 80% de réussite. Et en fait, c'est lié à l'histoire génétique de l'humanité où il y a eu des rétrécissements de population et on a accumulé en fait des gènes d'infertilité. Et donc on a ce fardeau en plus sur lequel on doit combattre en fait, qui touche à la fois cette fois-ci le sexe masculin et le sexe féminin.
Et bien justement, tiens, ce sujet, Céline, bonsoir.
Bonsoir.
On vous écoute. Vous êtes en voiture, Céline. J'espère que vous êtes arrêtée sur le bas-côté.
Je le fais de suite.
Mais faites-le, je vous prie. Attendez. Allez-y, on vous écoute.
Je voulais juste intervenir parce que on a eu des rendez-vous dans un centre de fertilité. Et ce qui m'a frappée, c'est que dans le centre de fertilité, il n'y avait que des spécialistes du corps de la femme. Et quand il a fallu investiguer du côté de mon conjoint, on nous a référé à un urologue en extérieur. Et je me suis dit, la fertilité, c'est quand même pas qu'une affaire de femme. Souvent, c'est du côté de l'homme que ça pêche. Et en fait, j'ai l'impression que tout le savoir et toutes les investigations médicales qui n'ont pas l'air si étendues que ça sont basées surtout sur la connaissance du corps de la femme. Mais très peu de l'homme.
Merci beaucoup Céline et spontanément, merci pour votre question, attention en voiture, et spontanément, Daniel Véhement, j'ai un peu ce sentiment que dans tous les couples, quand on n'arrive pas à avoir un enfant, c'est d'abord la femme qui va consulter, et éventuellement quand on a fait le tour, c'est l'homme qui se dit, peut-être que c'est moi, non, je me trompe
pas. Alors franchement, j'ai absolument pas cette expérience-là.
D'accord.
Et la raison majeure, c'est que dans mon laboratoire, on a 4 équipes, il y en a 3 qui travaillent sur la fertilité et sur la fertilité masculine, c'est-à-dire sur le spermatozoïde, et on travaille avec des cohortes de patients qui ont soit des azoospermies, c'est-à-dire absence totale de sperme, ou des asténosoospermies, c'est-à-dire des spermes qui se déplacent pas normalement, ou voilà, toutes sortes de pathologies, ou des globospermies, des morphologies anormales du sperme. Mm-hmm. Et en fait, comme je disais tout à l'heure, il y a la fertilité masculine baisse de quasiment 1% par an depuis les années 40 dans nos contrées, ce qui fait qu'on baisse les seuils de ce qu'on considère comme un spermogramme normal. Normalement, dans une consultation de fertilité, on regarde à part égale, du moins, c'est ce que je peux dire sur Cochin, le côté masculin et le côté féminin, parce que...
Et au même endroit, surtout, parce que c'est aussi ce que disait Céline, après tout, oui, faisons-le au même endroit, où est le problème.
Oui, ça semble très logique, et bon, enfin, je sais, moi je connais la situation à Cochin, et là, ça se fait de façon concertée.
Charlotte Sonigo, là-dessus, sur cette perception qu'est celle de Céline, et la perception qu'on peut tous avoir, moi y compris d'ailleurs, qu'on demande d'abord à la femme avant de demander à l'homme, au fond.
Ben nous, c'est un message vraiment important à passer également, que quand on fait un bilan de fertilité, c'est vraiment primordial de faire un bilan de fertilité du couple. On sait que dans environ 30% des cas, il y a des causes féminines associées à des causes masculines et qu'il y a environ 30% des cas d'infertilité qui sont des causes masculines pures. Mmh. Donc, en fait, il faut explorer l'homme largement autant que la femme.
Tout à fait.
Après, c'est vrai que des spécialistes de l'homme, il y en a moins aujourd'hui et qu'on nous forme aussi peut-être un peu moins bien à l'andrologie qui est vraiment cette étude-là. Et on essaye avec plusieurs collègues justement d'améliorer un peu cette formation et de mieux prendre en charge les hommes sur l'infertilité.
Et justement, voilà un homme. Bonsoir Lucas.
Bonsoir.
Bonsoir et bienvenue Lucas, on vous écoute.
J'appelais pour entendre le sujet de l'émission. Je suis pas en plein dedans, mais j'accompagne actuellement ma copine qui est justement atteinte de l'endométriose et qui a obtenu une prise en charge à 100% de sa congélation d'ovocytes, justement parce qu'elle était atteinte de cette maladie. Et donc j'appelais pour justement exprimer un peu ce mal-être qu'on a perçu quand en fait on a appris que le remboursement était proposé, la prise en charge à 100% par la Sécu était proposée après quasiment 3-4 ans d'instigation sur le fait qu'il fallait qu'on fasse des enfants très très vite.
C'est-à-dire, Lucas, je ne vois pas le sens de votre question. Votre étonnement, votre interrogation vient de quoi ?
Sur le fait que l'information qui est proposée sur une prise en charge à 100% par la sécurité sociale pour la congélation de vos sites, en fait les informations sont quasi inexistantes.
D'accord.
Et on laisse la plupart des femmes qui sont dans une certaine détresse par rapport à leur possibilité de procréation, on les laisse un peu toutes seules, quoi, jusqu'à ce qu'elles doivent éventuellement trouver des solutions.
Merci beaucoup, merci Lucas, pardon d'avoir d'abord compris de travers, mais effectivement, ce que nous explique Lucas, Charlotte Sonigo, c'est que il y a une solution, qui est pas forcément une solution simple, mais il y a une solution à la portée de sa copine qui est là. On a mis beaucoup de temps à la lui donner, au fond. C'est des choses que vous entendez beaucoup aussi ou pas ?
Alors oui, effectivement. Alors il y a deux situations différentes. Il y a la prise en charge pour la fertilité. Et là, il y a vraiment une prise en charge à 100% qui est proposée pour tous les couples qui désirent avoir une grossesse. Et en France, on a vraiment cette chance-là, parce que c'est très peu fait dans le monde, hein, le fait de pouvoir avoir une prise en charge à 100% pour la fertilité. Après, il y a aussi une prise en charge à 100% pour la préservation de la fertilité, où là, on congèle des ovocytes en amont. Et là, effectivement, il faut avoir une pathologie aujourd'hui qui risque d'altérer la fertilité pour avoir cette prise en charge à 100%. Et ça, effectivement, aujourd'hui, c'est moins connu. Cette préservation de la fertilité, cette préservation des ovocytes, en amont d'un projet de grossesse, a d'abord été mise en place pour les patientes qui ont un cancer et qui vont recevoir de la chimiothérapie. Et ça, ça commence à être encore être de plus en plus connu. Et encore, hein, il y a beaucoup de patientes qui ne sont pas adressées. Et ça, aujourd'hui, c'est pas normal. Et maintenant, dans la loi, on a aussi le droit de le faire pour de plus en plus de pathologies qui vont altérer la fertilité, dont l'endométriose.
Et c'est quelque chose qu'on propose systématiquement à une patiente atteinte d'endométriose, par exemple, Daniel Véman.
Désormais. Non, en fait, ça dépend fortement de l'endométriose. Parce qu'en fait, il y a des endométrioses où on va avoir besoin de faire une chirurgie, et ça fait qu'on va toucher à la réserve ovarienne, puisqu'on va enlever, c'est ce qu'on appelle l'endométriome ovarien, donc il y a un kyste sur l'ovaire, et on est obligé donc de couper en fait l'ovaire, voire d'enlever un ovaire, et donc on va altérer la fertilité. Et dans ces cas-là, on peut proposer ça, mais il y a des autres d'autres endométrioses où en fait ce qui est atteint, c'est en général le péritoine, des endométrioses profondes qui vont toucher le rectum, le vagin, etc. Et pas forcément l'ovaire, mais l'ovaire est touché dans 40% des endométrioses à peu près, donc ce qu'on appelle l'endométriome. Mais dans ce cas-là, effectivement, il y a ces questions de préservation de la fertilité qui rentrent exactement dans le même cadre que celui du cancer.
Et puis Véronique, c'est peut-être l'occasion de rappeler que la conservation, la congélation des ovocytes, théoriquement, est pour Madame tout le monde, j'allais dire, pour l'instant, n'existe pas, n'est pas permise.
Enfin, peut-être au mois de juillet, bientôt, avec la loi bioéthique.
Lorsque la loi bioéthique sera discutée.
Sauf dans une situation particulière qui n'est pas bien connue en France, c'est qu'aujourd'hui, exactement, si une femme veut pouvoir, en France, congeler ses ovocytes pour elle, en absence de toute maladie, elle a le droit de le faire en France si elle donne la moitié de ses ovocytes.
Et ça, parce qu'on a un déficit de dons d'ovocytes en France.
Donc pour essayer de pallier ce problème de dons, de déficit en donneuse, si on veut, on a le droit de donner la moitié, de conserver la moitié. Et ça, vraiment, c'est pas connu du tout. Enfin, c'est très, très peu connu de la population générale aujourd'hui.
Mais ce qui est parfois un peu compliqué aussi, d'imaginer qu'on donne ses ovocytes.
C'est une autre démarche, mais c'est une possibilité de le faire en France, en tout cas.
Eh bien, voici Adeline. Bonsoir, Adeline.
Bonsoir.
Vous arrivez pile au bon moment. Allez-y, on vous écoute.
Voilà, c'est exactement ce que vous venez de dire. Moi, j'ai 30 ans. Je suis pas du tout dans une situation où aujourd'hui, je souhaite avoir des enfants. Pour raisons émotionnelles et professionnelles. Dans ma vie, aujourd'hui, j'ai pas un projet d'enfant. Mais je me dis que peut-être plus tard, j'en voudrais. Je veux pas me fermer la porte parce que, comme on l'a dit, l'horloge biologique tourne. Et j'ai donc appris par hasard, effectivement, l'année dernière, que le seul recours que j'avais, c'était de faire le seul recours gratuit, presque, c'était de faire un don d'ovocytes pour congeler la moitié des ovocytes que je pourrais donner. Ce qui est encore pas assez, en quelque sorte, pour plus tard, puisqu'on considère qu'il faut une dizaine, voire une quinzaine d'ovocytes. Et là, j'espère éventuellement pouvoir en congeler 5. Donc, on est un peu face à une impasse si on n'a pas les moyens de partir à l'étranger pour conserver ses ovocytes.
Et est-ce que l'idée de... on va revenir là-dessus, Adeline, l'idée de devoir couper en deux, en quelque sorte, est-ce que ça, c'est un frein pour vous? Est-ce que vous vous dites, c'est pas exactement comme ça que j'imaginais les choses, ou est-ce que vous vous dites, mais ça, c'est pas grave, c'est secondaire?
Moi, non, parce que l'idée du don, à la base, me plaisait, c'est aussi pour ça que je le faisais. Mais je comprends que pour certaines personnes, peut-être ce soit gênant. Moi, je suis contente que au moins mes ovocytes puissent aider des couples qui n'y arrivent pas à avoir d'enfants. Mais en France, on n'a que ça comme possibilité. C'est-à-dire, on sait que peut-être, je sais que dans 10 ans, si j'ai envie d'avoir des enfants, ça risque d'être très très compliqué pour moi. Or aujourd'hui, si j'ai des enfants, je ne vais pas leur offrir une vie, une vie agréable. Donc c'est la seule solution qui me soit offerte aujourd'hui.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Adeline Charlotte Sonigo. En effet, pour l'instant et en l'état, et peut-être que ça change effectivement à partir du mois de juillet lorsque la loi bioéthique sera discutée, mais en l'état, il n'y a pas d'autre solution gratuite pour Adeline.
En France, aujourd'hui, non. C'est pas autorisé par les lois de bioéthique s'il n'y a pas de pathologie qui peut induire une baisse de la fertilité. Effectivement. Donc là, les patientes vont souvent à l'étranger pour le faire.
Bien sûr. À Barcelone, à Londres, qui sont des choses dont on a eu largement l'occasion déjà de parler au cours de Téléphone Sonne. Et j'imagine qu'on le refera avant l'été d'ailleurs. Bonsoir, Julien.
Bonsoir.
On vous écoute, Julien.
Eh ben nous, on voulait, avec mon épouse et notre petit garçon, apporter un témoignage d'espoir, parce qu'on a eu la joie d'accueillir notre petit garçon dans notre famille au mois de décembre, d'une grossesse complètement naturelle, à l'âge de 46 ans pour mon épouse et 45 ans pour moi. Alors qu'on nous avait dit depuis 8 ans que ça serait quasiment impossible d'avoir des enfants. Et donc, on a passé 12 ans ensemble dans une relation sans se protéger, en essayant au départ, puis après, on s'est fait à l'idée qu'on n'en aurait pas. On avait fait le choix de pas se lancer sur une fécondation in vitro, et puis il est arrivé par miracle ou par surprise, on pourrait dire, l'an dernier, dans notre vie, et c'est pour dire que même si on entend tous ces témoignages et qu'on a autour de nous des gens qui sont dans des processus de FIV, moi je crois qu'il faut jamais perdre espoir tant qu'on ne dit pas que c'est complètement impossible.
Merci beaucoup Julien pour ce témoignage. Évidemment, Charlotte Sonigo, il y a aussi des cas comme celui-là, et heureusement, et on est content pour Julien, pour sa femme et pour leur petit garçon, évidemment.
Bien sûr, c'est ce qu'on espère, hein. Nous, on informe parce que c'est plus difficile, mais il y a quand même des cas de grossesse spontanée après 40 ans, après 45 ans, même si c'est de l'ordre du miracle et que c'est vraiment très rare. Heureusement, il y a des situations comme ça qui existent.
Tiens, il y a un chiffre qui a alerté un peu nos auditeurs que vous avez donné tout à l'heure, Daniel Vaiment, qui était que, en gros, c'est le sperme qui perd 1% de sa fertilité.
Du nombre,
c'est ça, ouais, tous les ans. Est-ce qu'on sait dû à quoi? Est-ce qu'on peut mettre des mots dessus? Est-ce qu'on peut dire perturbateur endocrinien, environnement? Est-ce qu'on peut dire des choses comme ça ou pas?
C'est trop compliqué. C'est extrêmement difficile de répondre de façon formelle à cette question. Il y a probablement un effet environnemental. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un effet de perturbateur endocrinien? C'est difficile aussi. Oui. Et on constate ça un petit peu partout, en fait, dans les pays industrialisés. Je n'ai pas connaissance d'études systématiques dans des pays en voie de développement, mais je pense qu'on trouvera à peu près la même chose. Il y a quelque chose qui se passe, qui est d'un point de vue de la causalité, qui est clair, c'est que depuis maintenant une quarantaine d'années, on a des techniques de fécondation in vitro, des techniques d'ICSI, où on injecte le sperme dans l'ovocyte, et qui sont extrêmement efficaces. Et en fait, on va sélectionner génétiquement des individus qui sont infertiles. Mm-hmm. Et donc, on va, par ce biais, enrichir la population en gens infertiles, puisque la technologie va suppléer à ce que la nature trierait. Et donc, de ce point de vue-là, c'est peut-être une des raisons, marginales probablement, de l'augmentation de l'infertilité masculine.
Cette question d'Amélie sur l'appli de France Inter, est-ce que le fait d'avoir pris la pilule pendant longtemps, depuis l'adolescence, influe sur la production d'ovocytes ou pas? Charlotte Sonigo?
Non. Et clairement, ça c'est un peu une idée reçue, hein, le fait d'avoir pris la pilule pendant longtemps, on sera moins fertile, etc. C'est absolument pas le cas. Le fait de prendre la pilule, ça va pas du tout altérer ni la qualité des ovules, ni diminuer leur nombre de manière artificielle, etc. Ça clairement, on sait que prendre la pilule à un moment donné, et quelle que soit la longueur de la prise, n'affecte pas du tout la fertilité à l'arrêt.
Il y a cette question aussi d'un auditeur qui nous demande, il s'appelle Pierre, il nous dit qu'il a 62 ans, qu'il a été diagnostiqué stérile à 31 ans. N'y aurait-il pas, dit-il, une certaine omerta sur la stérilité masculine, souvent confondue avec la virilité? Ou est-ce que c'est de la génération de notre auditeur Pierre qui a 62 ans et qu'aujourd'hui on est beaucoup plus conscient et beaucoup moins dans ces confusions-là?
Alors moi, mon sentiment, c'est que les gens sont plus conscients. Alors après, il y a un problème culturel, hein. Il y a des cultures où il y a plus d'omerta, en fait, là-dessus, où l'infertilité vient forcément de la femme, c'est vrai, ça existe. Mais disons, dans l'Occident tel qu'on le connaît, les gens sont plutôt conscients que des chiffres que Charlotte a donnés, à savoir à peu près la moitié des infertilités qui sont d'origine masculine, la moitié qui sont d'origine féminine, et que finalement la virilité n'a pas grand-chose à voir avec la production de spermatozoïdes. Ouais, c'est plus un problème hormonal.
Dans la série des idées reçues, c'est Bertrand qui est à Roubaix, idées reçues ou pas, d'ailleurs, vous allez nous le dire, qui dit « J'ai entendu dire que les jeans trop serrés chez les hommes pouvaient rendre infertile. Est-ce que c'est vrai ?»
Il y a quelque chose qui est pas bon pour la fertilité, c'est d'exposer ses testicules à une chaleur supérieure à 37 degrés. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont à l'extérieur du corps. Enfin, l'évolution fonctionne pas toujours très bien, hein, parce que ce serait peut-être plus simple des avoirs qui fonctionnent à 37 degrés. Et donc, des gens qui sont exposés à des professions où la région pelvienne est à température trop élevée ont des baisses de fertilité. Ça, c'est vrai. Maintenant, est-ce que le fait qu'un jean soit trop serré, ça peut faire d'autres choses, ça peut faire des torsions testiculaires, d'autres problèmes plus mécaniques. Mais voilà, ça peut jouer sur la température corporelle aussi.
Véronique, j'ai vu que vous vouliez la parole. Juste un mot quand même, parce que Bertrand a une question subsidiaire. Question 1 bis. Qu'en est-il du téléphone tout le temps dans la poche?
C'est compliqué. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a quelques études qui font le lien entre l'utilisation massive de téléphones portables et certains cancers, je crois, de certaines glandes salivaires. Il y a une vague corrélation. Maintenant, sur la baisse de fertilité, je sais pas. Moi-même, je suis pas un grand utilisateur de téléphone portable.
Véronique, vous voulez
ajouter
quelque chose ?
Oui, une question toute bête. On parle de la femme, mais chez l'homme, est-ce que la fertilité baisse avec l'âge ?
Oui.
Oui,
tout à fait. Et ça, c'est moins bien connu.
Ouais, absolument.
C'est moins bien connu. On a toujours l'impression qu'il y a une horloge biologique pour la femme. Et là, oui, à partir du moment de la ménopause, c'est plus possible d'avoir d'enfants. Et ça, on le sait bien. Et donc, c'est pour ça qu'on parle plus d'horloge biologique féminine. Après, il y a quand même une diminution de la fertilité chez l'homme. Même si l'homme peut toujours concevoir, quel que soit son âge, il y a quand même moins de chances par cycle et puis plus de risques de certaines pathologies pour l'enfant, ce qui est beaucoup moins connu aujourd'hui. On a l'impression que les hommes peuvent avoir des enfants à n'importe quel âge sans aucun problème, ce qui n'est pas complètement vrai.
Et les problèmes arrivent à quel âge à peu près ? Enfin, la probabilité qu'il y ait des problèmes, c'est quoi ? 50 ans, 60 ans
C'est pas linéaire, mais disons que ça augmente avec l'âge. De façon, on peut pas dire, on peut dire que bon, il y a un optimum de la qualité d'espérance de vie, mettons à 20 ou 25 ans probablement, et puis après ça va, cette qualité va diminuer par des mécanismes épigénétiques. Donc il y a des avec le vieillissement, les spermatogonies, c'est les cellules qui vont donner les spermatozoïdes, vont accumuler des marques. Ces marques vont faire que la spermatogénèse va se faire moins bien. On aura plus de spermatozoïdes anormaux et des risques, en fait, même si, et parfois même s'ils font une bonne fécondation, d'avoir des pathologies, plus de risques de pathologies métaboliques, de pathologies cardiovasculaires, etc.
Mais, donc, la chute est moins violente que
beaucoup
ce
moins violente.
Que vous décriviez voilà,
oui,
tout
oui,
à l'heure.
On sait bien, on a des hommes qui peuvent avoir des enfants à 80 ans, ça, il n'y a pas de doute là-dessus.
Et c'est pas forcément une bonne idée, pareil.
C'est pas forcément
une
bonne idée.
Encore une autre histoire.
Surtout si on voit ses petits-enfants, c'est pas une bonne idée.
Bonsoir Audrey.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue Audrey, allez-y.
Je vous remercie, ça fait bizarre de vous parler. Ça fait des années que je vous écoute. Bon, voilà. Je suis désolée, je suis un peu émue. En fait, je voulais juste un témoignage d'espoir. Je suis sage-femme et du coup j'ai 37 ans, j'ai une petite fille qui a 2 ans et qu'on a attendu avec mon compagnon pendant 6 ans. Et voilà, la PMA accompagnée des couples au quotidien dans leur projet d'accueillir un enfant, c'est quelque chose que je connais bien. Et voilà, je voudrais juste dire aux couples le socle de tout ça, c'est l'amour, hein, c'est le fait d'avoir un désir commun et de s'aimer. Et surtout, parce que, enfin, je sais pas si les personnes qui sont sur le plateau ce soir, enfin, partage mon avis, mais il y a aussi beaucoup de cas en fait où on connaît pas les causes de l'infertilité et il y a beaucoup de couples qui sont dans ce cas-là. Et voilà, je voudrais juste dire aux couples que parfois il faut juste du temps et prendre soin d'eux-mêmes et que parfois ça suffit un peu à débloquer des choses des choses qui échappent à la raison, à la connaissance scientifique, mais qui fonctionne, et garder en tête aussi tous les témoignages comme celui de Julien, où la vie prend s'enracine, alors qu'on a passé l'âge théorique pour avoir des enfants. Et moi, j'ai dans ma famille quelqu'un à qui c'est arrivé, à qui on avait dit vous n'aurez jamais d'enfants, et qui a eu une grossesse spontanée à 40 ans, qui s'est passée de manière idéale. Qui a donné une jeune femme maintenant magnifique et intelligente, qui est la marraine de ma fille, parce que ça a toujours été mon. Enfin, ça voilà, ça, elle m'a tenue dans ce projet, dans les moments difficiles, quoi. Et voilà, et donc, et ça arrive à plein de couples, et notamment plein de couples qui ont des parcours PMA un peu longs, et puis pour le deuxième, ça arrive comme ça. Souvent, d'ailleurs, c'est des couples qui n'ont pas prévu et qui sont surprendre. Et enfin, c'est bien la preuve que voilà, il n'y a pas que. Enfin, la médecine, c'est fabuleux et vraiment, on a de la chance de pouvoir être accompagné comme ça aujourd'hui. Mais voilà, prenez soin de vous, aimez-vous et mesdames, prenez soin de vous et enfin voilà, c'est très très important.
Merci beaucoup, Audrey. Merci pour votre appel. Merci pour votre émotion aussi. Vous avez bien raison. Aimons-nous et ça passera comme ça. Et c'est vrai ce que dit Audrey, Charlotte Sonigo. Des fois, c'est très compliqué. On ne sait pas vraiment pourquoi. Et puis il y a un déblocage. Enfin, tout ça, c'est une mécanique compliquée, hein, le corps humain. Et ça commence aussi dans la tête aussi parfois. Il y a un deuxième enfant qui arrive naturellement, alors que le premier a été un vrai parcours du combattant. Ça, on ne sait pas le dire, on ne sait pas l'expliquer, mais c'est tant mieux, j'en sais rien. Non
bah oui, donc effectivement, il y a environ 10% des causes qui sont inexpliquées, donc on fait tout un bilan et on ne sait pas pourquoi. Et puis, il y a aussi, on a tous beaucoup d'histoires comme ça, de patients, soit qui ont une histoire d'infertilité, qui finalement, moi j'en ai vu beaucoup de patientes en consultation, ça fait 2 ans qu'ils essayent, je les vois le jour de la consultation, elles me disent qu'elles ont un retard de règles de 4-5 jours. Mm-hmm. Je leur fais faire un test de grossesse, elles sont enceintes et elles ne s'y attendaient pas du tout. Donc il y a probablement effectivement des déblocages, le fait de se sentir pris en charge, le fait de couper un peu, qui marche bien. Et les histoires de deuxième enfant après un long parcours sont vraiment pas rares aujourd'hui, on en a beaucoup.
Ceci étant, on peut trouver à ça des explications aussi, si on est scientifique. Oui. Comme par exemple le fait que peut-être que l'utérus est mieux préparé à faire une implantation à la deuxième grossesse qu'à la première, par exemple.
Et c'est marrant parce que vos réponses et vos réactions déclenchent des questions. Je ne sais pas si vous pourrez répondre à celle-ci. Nous essayons de faire un enfant depuis 6 mois. Mon mari a 32 ans et moi j'en ai 34, nous dit cette auditrice. Nous n'avons plus de contraception depuis plus d'un an. À partir de quand devons-nous nous inquiéter ?
À peu près au bout d'un an, on peut commencer à réfléchir à faire un bilan. Les recommandations maintenant sont au bout d'un an de rapports sans protection, de rapports réguliers, sans contraception, on peut commencer à réfléchir à faire un bilan, sauf s'il y a des cas particuliers, une femme qui n'a pas du tout ses règles, oui, effectivement, il faut consulter plus tôt. Mais...
Caroline nous pose cette question, le don d'ovocytes chez la femme est-il douloureux et comment ça se déroule ? Daniel Véhement, comment ça marche ?
C'est Charlotte là.
Pardon, allez-y Charlotte, autant
donc,
pour moi.
Donc le don d'ovocytes, donc du côté de la receveuse, je suppose que la question est de ce côté-là, est vraiment pas douloureux, sauf que c'est un parcours qui est assez long.
Je pense qu'elle parlait plutôt de la donneuse, en fait. Ouais. Je pense qu'elle est plutôt donneuse.
Pour la donneuse, c'est le même parcours de fécondation in vitro qu'une femme qui a recours à la FIV pour elle. Donc c'est une stimulation de l'ovulation qui dure une quinzaine de jours avec des injections, plusieurs contrôles d'échographie et de prise de sang, jusqu'au moment où on fait la ponction d'ovocytes. Donc là, on récupère les ovules et ça peut se faire sous anesthésie locale ou sous anesthésie générale. Donc
c'est quand
pas
même
douloureux,
un peu plus violent que le don de sperme.
C'est sûr.
Oui,
c'est quand même un parcours.
Et puis c'est un parcours en amont qui est assez long aussi parce qu'il faut rencontrer un psychologue, il faut rencontrer des généticiens, il faut rencontrer beaucoup de monde quand même pour avoir le droit de donner. Parce qu'on a quand même des verrous qui font que dans certaines situations, on peut pas donner. Donc c'est un parcours qui peut être effectivement un peu long.
Jusqu'à quel âge peut-on donner ses ovocytes ? Nous demande cette dame sur franceinter.fr qui dit qu'elle a 3 enfants, qu'elle a 45 ans. Zéro difficulté à procréer. Suis-je encore intéressante, nous dit-elle.
Malheureusement, elle
intéressante,
peut...
oui, sans aucun doute.
Voilà. Mais malheureusement, voilà. Elle ne peut pas donner aujourd'hui. C'est jusqu'à 38 ans qu'on a le droit de donner ses ovocytes en fonction
des centres. Ce qui a un sens par rapport à ce que vous nous avez expliqué, effectivement, évidemment, depuis le début de cette émission. Adrien, bonsoir.
Bonsoir.
Allez-y, Adrien, on vous écoute.
Oui, moi, je voulais, en fait, témoigner, en fait, avec mon ami. On a fait, donc, une FIV, ça fait maintenant 4-5 ans qu'on essaye. On a eu 4 échecs. Et moi, je voulais surtout intervenir j'étais un peu déploré du fait que, en fait, l'un des plus grands centres de l'Ouest, donc, nous, avec mon ami, on est sur Rennes, l'hôpital sur Rennes. En fait, il n'y a que 2 dons d'ovocytes par mois, en fait, de disponibles. Du fait que, par exemple, parce qu'en fait, en France, c'est pas comme en Espagne où les donneuses, en fait, sont rémunérées. Et du coup, il y a un manque de communication. Finalement, les donneuses, c'est seulement les personnes qui connaissent notre problématique avec mon ami et moi, qui peuvent finalement être au courant et intervenir en tant que donneuse. Donc c'est vrai que je trouve un problème. Alors je sais pas si c'est lié aussi aux associations, un papa, une maman, ou enfin en France je trouve qu'il y a un blocage qui se crée en fait, et je trouve qu'il y a tente à améliorer à ce niveau-là quoi.
Merci beaucoup Adrien. Je vous vois faire oui avec la tête, Charlotte Sonigo.
Oui, clairement, aujourd'hui, en France, on manque de donneuses. On n'a pas beaucoup de donneuses. À partir du moment où les couples, par exemple, veulent s'inscrire pour un don d'ovocytes, entre le moment où la demande est faite et le moment où le don a effectivement lieu, il y a entre 2 ans et demi et 3 ans d'attente. Donc, effectivement, c'est un parcours long parce qu'il n'y a pas suffisamment de donneuses. Il y a plusieurs explications. On a, en France, une culture du don qui est moins développée que dans certains pays, notamment l'Espagne. Et aussi, le fait que les patientes ne touchent pas d'argent. Alors, on ne dit pas vraiment rémunéré, on dit indemnisé, justement, pour tout le parcours, peut également, possiblement, avoir un impact. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en plus, les donneuses d'ovocytes étaient obligées d'avoir un enfant avant, donc ça diminuait aussi le nombre de femmes qui voulaient donner, tandis qu'aujourd'hui, on a tout à fait le droit de donner ses ovocytes ou ses spermatozoïdes, même quand on n'a pas d'enfant.
Et ces verrous-là, Daniel Véhement, pour le coup, ne sont pas prêts d'être levés, si, ou pas ? Est-ce qu'on discute réellement de lever ces verrous-là ?
Ben, si la question, c'est par exemple cette rémunération, c'est pas du tout dans la culture, en fait, du pays, donc ça va être très difficile de revenir en arrière. C'est un peu des débats similaires à la GPA.
C'est pour ça que je posais la question des verrous. Ouais.
Donc bon, les verrous sont de même nature. Bon, évidemment, c'est moins prenant qu'une GPA, mais ça se pourrait. On peut pas prédire de ce qui va se passer dans 10 ans, mais à l'heure actuelle, dans un futur proche, on ne pense pas que ça puisse changer. À moins peut-être que des émissions comme la vôtre fassent une prise de conscience et que des femmes se disent je vais donner mes ovocytes.
On croise les doigts et on espère. Et bonsoir Agnès.
Bonsoir.
On vous écoute, Agnès.
Donc, moi, j'ai 52 ans. J'ai eu deux enfants il y a plus de 20 ans. Donc, il y en a un qui a 21 et l'autre 18. Le premier que nous avons eu par insémination artificielle et le second par ICSI. Donc, pour dire qu'en 3 ans, les conditions s'étaient grandement dégradées du fait de la qualité du sperme de mon mari. La difficulté, c'est que moi, je suis d'abord passée par près de 2 ans d'analyse pour savoir si le problème n'était pas chez moi. Pour au final, au bout de ces 2 ans de marathon, dire que ça venait peut-être de monsieur. Donc, c'est au bout de 2 ans que monsieur a été impliqué. Et on a vu effectivement au spectrogramme que le problème venait de là. Mais bon, moi, pendant 2 ans, j'ai subi pas mal d'examens, pas forcément très agréables, avec le doute aussi, la culpabilité. Et il se trouve que à la suite de notre deuxième enfant, notre couple a explosé. Je ne dirais pas que c'est uniquement à cause de ça, mais que quelque part, mon mari a pris de plein fouet la constatation qu'au bout de 3 ans, ça s'était tellement dégradé qu'il fallait passer à l'étape ultime de la fécondation in vitro, qui est l'ICSI. Et moi, aujourd'hui, je me demande s'il y a un meilleur accompagnement, 20 ans après, des couples qui découvrent leurs problèmes d'infertilité. Et deuxième question, quid de mes enfants ? Ce sont 2 garçons où je m'inquiète un petit peu sur, quelque part, vous l'avez dit aussi, en tout cas pour le deuxième, on a vraiment sélectionné un spermatozoïde. Est-ce que lui peut avoir des problèmes ? Est-ce que c'est quelque chose qui est suivi quant à la fertilité des enfants nés de fécondation in vitro ?
Merci beaucoup Agnès pour ces 2 questions. En fait, 2 choses vraiment très intéressantes. D'abord, on l'entend bien, la difficulté du parcours de celui d'Agnès, c'est un peu ce qu'on disait de manière un peu stéréotypée finalement au début sur la différence entre l'homme et la femme. Ça, c'était il y a 20 ans. Honnêtement, Charlotte Sonigo, est-ce que une situation comme celle d'Agnès pourrait 20 ans après se renouveler de la même manière, c'est-à-dire qu'on la laisse toute seule faire 2 ans d'examen avant de regarder son mec ou pas ?
Malheureusement, ça existe. Et nous, on reçoit des fois en consultation des couples ou des femmes qui ont eu toutes seules 6 mois, voire 1 an de traitement sans exploration de son conjoint. Et ça, aujourd'hui, c'est des situations complètement anormales. Nous, on essaye vraiment de batailler contre ça. Dans les premiers bilans, on fait systématiquement l'homme et la femme. Et chez la femme, on recherche toutes les causes. Parce que c'est pas parce que on a un problème d'ovulation qu'on est obligé d'avoir des trompes qui sont parfaites. Donc systématiquement, avant de démarrer quoi que ce soit, dans le bilan, il faut tout explorer, l'homme, la femme, et chez la femme, explorer les problèmes de trompe, les problèmes d'ovulation, les problèmes d'utérus, tout dans un même temps.
Et pour ce qui est de l'accompagnement du couple, Agnès, là par exemple, a souffert de ça, ils ont un peu le sentiment d'avoir été tout seuls dans leur démarche, Daniel Véhement, est-ce qu'aujourd'hui c'est différent ? Vous avez le sentiment que cet accompagnement-là du couple est beaucoup mieux fait aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 20 ans ?
Je pense qu'il y a un effet géographique, ça dépend, et c'est vrai pour toute la médecine en fait.
L'inégalité territoriale, c'est quand même le grand sujet de ces
derniers mois. Oui, et même parfois à 4 km de distance, on peut avoir une prise en charge qui est parfaite, qui va tout prendre en compte, où les médecins vont examiner les choses de façon plus complète, et puis des fois où ça va être beaucoup plus superficiel ou beaucoup plus avec des idées reçues, des idées préconçues. Là, ce qui s'est passé, c'est que la dame, elle avait eu une première grossesse avec une insémination artificielle, donc peut-être que pour la deuxième grossesse, ils se sont dit c'est que le sperme fonctionne, ils n'ont peut-être pas exploré ça à cause de ça. Peut-être.
Ce qu'elle dit, Agnès.
Et l'autre point, donc la deuxième, la question qu'elle a posée sur les conséquences sur ces garçons. Moi, je suis généticien. Et clairement, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on sélectionne potentiellement des personnes qui ont plus de difficultés à concevoir. Et donc, si ces garçons ont des difficultés qu'on a définies, c'est-à-dire que si au bout d'un an de rapport non protégé, s'ils veulent avoir des enfants qui n'en ont pas, ben, une exploration de la qualité de leur sperme est absolument nécessaire. Et c'est évident qu'il faut le faire, surtout avec des antécédents comme ça.
Mm-hmm. Tiens, je voudrais qu'on termine avec cette email sur franceinter.fr qu'on a reçu de Louise et qui nous dit « Je m'appelle Louise, j'ai 21 ans et il me semble hors de question d'avoir un enfant avant 35 ans. Avant cela, je veux me donner la chance de vivre une vie professionnelle trépidante. Peut-être que si l'organisation de la société était moins sexiste, n'écartait pas les femmes de leur carrière, la question de l'horloge biologique se poserait beaucoup moins. » Eh bien, c'est la jolie conclusion parce qu'elle n'a pas complètement tort, notre amie Louise, et j'espère que quand elle sera en âge d'avoir envie de faire des enfants, ces choses-là auront été largement aplanies. Je vous remercie tous très fort d'avoir été là pour ce téléphone sonne. Merci à tous comme d'habitude.